C'est l'heure du journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, les négociations sur le Brexit dans l'impasse. À Londres, Theresa May tente de sauver la face. À suivre l'avenir de Manuel Valls, c'est mardi que l'ancien Premier ministre devrait annoncer sa candidature pour la mairie de Barcelone. Syndicats et patronats conviés à modifier l'assurance chômage, le gouvernement souhaite réaliser de 3 à 4 milliards d'économies. De la musique électronique pour refermer ce journal avec le coup d'envoi de la Technoparade, puis tout le sport en compagnie de Laetitia Bernard. Enfin, de l'histoire à 8h20, Eric Delvaux en compagnie de votre invité Marc Ferraud.
Oui, l'historien signe un dernier livre, un nouveau livre, ça s'appelle « Les ruses de l'histoire, le passé de l'actualité ». Eh bien, vos questions d'actualité ce matin à l'historien Marc Ferraud, c'est dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Theresa May sur la sellette de retour du sommet européen de Salzbourg en Autriche. Sommet informel au cours duquel les 27 ont demandé à la première ministre britannique de revoir sa copie sur le Brexit et donc sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Cette dernière a tenté hier de reprendre la main ou de sauver la face dans une allocution télévisée depuis ses bureaux du 10 Downing Street. Theresa May a dénoncé une impasse et blâmé l'Union européenne, déclarant attendre des contre-propositions à son plan. Londres, Antoine Gignot.
C'est un discours qui donne à Theresa May un peu de sursis. La silhouette noire de la première ministre debout devant les drapeaux britanniques, la rhétorique sur le manque de respect de l'Union européenne, tous les codes, tous les symboles sont là pour rassurer les partisans du Brexit. Nous quitterons l'Union européenne, leur dit Theresa May, même s'il faut pour cela renoncer à signer un accord commercial. Conséquence, le gouvernement se resserre. Michael Gove, secrétaire d'État à l'environnement, Liam Fox, chargé du commerce international, qui avait pris leur distance, redisent leur implication, mais les critiques restent violentes, notamment à gauche. Jeremy Corbyn, chef de file des travaillistes, juge Theresa May incapable d'obtenir un bon accord. Elle est dans une situation intenable, commente Keir Starmer, l'un des responsables du parti. Cette situation épineuse, c'est aussi ce que met en avant Jean-Claude Juncker, le chef de la Commission européenne, compare les négociations à la parade amoureuse de deux hérissons. Il faut faire attention, dit-il, à ne pas s'égratigner. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et si l'on en croit le quotidien britannique proche des conservateurs, le Télégraphe, plusieurs ministres du gouvernement de Theresa May pourraient annoncer lundi leur démission si elle n'est pas en mesure de formuler de nouvelles propositions. Ajoutons qu'au cœur du problème se pose l'avenir de l'Irlande du Nord, de l'Ulster donc, que les Européens aimeraient voir intégrer la République d'Irlande alors que les Britanniques souhaitent conserver dans leur giron cette province au risque de voir le rétablissement d'une frontière entre le Nord et le Sud et pourquoi pas le redémarrage d'une guerre de religion entre protestants et catholiques.
L'Europe toujours, Serge, avec cette fois le dilemme suscité par la probable candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone.
En effet, une candidature qui, selon les observateurs politiques, ne fait guère de doute et qui devrait être annoncée mardi prochain par l'ancien Premier ministre socialiste. Une candidature qui pourrait amener le député de l'Essonne à laisser son poste à sa suppléante, au risque de susciter le courroux des Barcelonais, ou bien alors à démissionner, provoquant de fait une législative partielle, ouvrant la porte à son ancien adversaire de la France insoumise, Farida Amrani, arrivée à seulement 139 voix derrière lui. Pour cette dernière, conseillère municipale à Évry, cette candidature de Manuel Valls, qui ne remplit pas son rôle de député, constituerait une nouvelle trahison. Farida Amrani, joint au téléphone par Maxence Lambeck.
Depuis son élection, personne ne l'a revu. Il a peut-être été revu une fois lors d'une réunion pour En Marche, mais voilà. Il s'est servi de la ville comme tremplin et que maintenant, il sait que sa vie politique, en tout cas, n'est plus ici, ni à Évry, ni en France. Bah, il change de crèmerie. La trahison, il connaît. Il a déjà changé de parti, puis maintenant il change de patrie. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse son travail pour lequel il est grassement rémunéré, c'est-à-dire qu'il est député de notre première circonscription. Il devrait siéger au banc de l'Assemblée, chose qu'il ne fait pas. On est les seuls citoyens en France à ne pas être représentés à l'Assemblée en ce moment. On était les premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant c'est un opportuniste et continuera à faire de l'opportunisme tout le temps.
Précisons que rien dans les textes n'oblige Manuel Valls, né à Barcelone, en août 62, à abandonner son mandat national français. J'ajoute que l'élection municipale de Barcelone aura lieu le 26 mai prochain.
En France, ce cas de conscience des partenaires sociaux, le gouvernement d'Édouard Philippe leur demande de faire des économies sur l'assurance chômage.
Oui, le gouvernement entend en effet serrer la vis de l'assurance chômage et déclare vouloir économiser de 3 à 4 milliards d'euros sur les 3 années à venir. Un souhait annoncé hier et qui sera formalisé dans la lettre de cadrage que syndicats et patronats recevront la semaine prochaine. À eux d'accepter ou de refuser ce nouveau cahier des charges fixé par le gouvernement, Sarah Lemoine.
Le ministère du Travail demande aux syndicats et aux patronats qui gèrent les caisses de l'assurance chômage de faire de grosses économies, entre 1 et 1,3 milliards d'euros par an en moyenne sur les 3 prochaines années, chaque année. L'objectif étant de réduire la dette de l'UNEDIC qui devrait atteindre 35 milliards d'euros en 2019. Alors pour parvenir à cet objectif, la lettre de cadrage qui sera envoyée aux syndicats et aux patronats en milieu de semaine prochaine leur imposera de remettre à plat certaines règles d'indemnisation. Par exemple, celle qui permet de cumuler une allocation chômage avec un petit boulot et qui, selon l'entourage de la ministre, enferme les chômeurs dans la précarité. En parallèle, les partenaires sociaux devront inventer un mécanisme qui responsabilise les entreprises pour lutter contre l'abus de contrats courts. À charge à chaque fois pour les syndicats et le patronat de trouver les solutions. Tout est ouvert, insiste le ministère, dans cette future négociation. L'objectif final étant de lutter contre le chômage en favorisant l'emploi durable et en répondant aux besoins de recrutement des entreprises.
Syndicats et patronats qui gèrent l'assurance chômage via l'UNEDIC depuis 1958 ont 4 mois devant eux s'ils acceptent pour présenter une nouvelle convention. En cas de refus, eh bien c'est le gouvernement qui fixera les nouvelles règles à leur place.
C'est un scénario désormais répétitif. Le bateau de l'association SOS Méditerranée, l'Aquarius, a de nouveau récupéré des migrants au large des côtes libyennes, mais sans savoir où les débarquer.
Il s'agit cette fois-ci de 11 migrants, 10 hommes et un adolescent, recueillis à bord d'une embarcation de fortune à une cinquantaine de kilomètres des côtes libyennes. Alors, pas question de les débarquer en Italie, où le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a décidé de fermer les ports de son pays aux migrants, et pas de réponse non plus satisfaisante des autres pays européens. Bref, la prise en charge des migrants en pleine mer devient un véritable casse-tête pour les humanitaires, Delphine Evenou.
Il y a un an, une dizaine de navires humanitaires parcouraient les eaux internationales au large de la Libye. En juin dernier, il n'était plus que 5. Aujourd'hui, seul l'Aquarius patrouille ce secteur de la Méditerranée, aidé, quand la météo le permet, par un petit avion. Le Colibri affrété par l'association Pilotes Volontaires qui effectue des repérages. 3 bateaux sont toujours sous séquestre à Malte pour des questions de pavillon. L'Open Arms, lui, a pris la direction du détroit de Gibraltar, l'Espagne étant désormais la première porte d'arrivée des migrants en Europe. L'Aquarius, seul donc en Méditerranée centrale, inadmissible, dénonce Sophie Rahal, porte-parole de SOS Méditerranée.
Ça a des conséquences sur notre travail, évidemment, puisqu'on est la seule ONG disponible. On sait très bien que les départs continue depuis la Libye, puis surtout que le nombre de morts continue pendant ce temps-là à augmenter. Rien que depuis le 1er janvier 2018, sur l'axe de la Méditerranée centrale, précisément l'axe sur lequel SOS Méditerranée intervient avec l'Aquarius, on est à 1260 personnes décédées. C'est pas possible.
Selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, lors de la traversée de la Méditerranée centrale, les chances de survie ont diminué de plus de moitié en un an.
Delphine Evenou, une satisfaction pour les victimes des centres dentaires à Bakou, d'Antex. Près de 3 ans après les premières plaintes, les magistrats ont procédé aux premières mises en examen, dont celle du fondateur de cette chaîne, Pascal Station, qui a été placé en détention provisoire. Allez, oreilles sensibles, attention! Il va être question de musique électronique. C'est en effet cet après-midi que pour la 20e année, la Technoparade va s'emparer des rues de Paris. Un anniversaire symbolique qui verra même la présence d'un char de la SACEM. Vous savez, cette institution de la répartition des droits d'auteur. Une reconnaissance en quelque sorte de ce courant musical longtemps diabolisé. Une présence qui n'est pas pour déplaire au président de l'association Technopole, organisatrice de cet événement, Tommy Vautcrane, interrogé par Delphine Evenou.
On revient de loin, comme on dit, hein, puisqu'en 98, on commençait juste à se faire accepter la circulaire de 98 interministérielle qui reconnaissait les musiques électroniques comme une culture à part entière venait d'être publiée. Et donc, pour célébrer cela, nous avons décidé de lancer un événement qui s'appelle la Technoparade. Et puis, c'est devenu un des rendez-vous populaires pour la jeunesse et les fans de musique électronique. Selon les données de la SACEM, c'est le premier style de musique à l'export. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur une scène extrêmement dynamique. La French Touch, qui s'est fortement développée d'ailleurs sur la Technoparade, puisque l'ensemble de nos stars internationales sont passées par le défilé, voire même à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, ce sont vraiment les porteurs de notre culture électronique à travers le monde, que ce soit des David Guetta, des Bob Sinclair, des Martin Solveig, qui sont apparus et qui ont développé leur carrière aux alentours des années 98-2000 et qui, depuis 10 ou 15 ans, sont les porte-étendards de la culture électronique française à travers le monde.
Voilà, début des hostilités, pardon, des festivités dès midi, qu'est François Mitterrand. À partir de 16h, le cortège prendra la direction de la place d'Italie. Et puis, autre événement, c'est aujourd'hui également que commence la fête du sport. Fête du sport qui envahira demain la maison de la radio avec notamment la course Vertigo. Nous en reparlerons, Eric.
365 marches à monter dans la maison de la radio pour arriver à la tour centrale et le point de vue sur tout Paris. Effectivement, c'était le journal de Serge Martin.